Krampus.
Rock, rock, techno,
rap and roll. Machine.
88.3 FM.
Back in full force.
Fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors ?
Alors ?
Alors ?
On se fait un film ?
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est effectivement l'émission Alors, on se fait un film pour parler de cinéma, évidemment. Toutes les deux semaines, ou plus, tout dépend de nos emplois du temps. Voilà, on anime cette émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et je ne suis pas toute seule pour en parler. Comme d'habitude, j'ai une bonne équipe.
Oui.
Bonsoir.
Bonjour. Salut,
Claude.
Salut, bonjour.
Claude. Bonsoir à toutes et et à tous.
Et bonsoir Vincent et Arnaud.
Bonsoir à tout le monde.
Salut.
Alors, vous allez bien ?
Ça va bien.
Ouais, ça va mieux.
Oui, parce que tu n'étais pas là, Arnaud, la dernière
non,
fois.
Non, non, la grippe m'a eu.
Oui, la saison, ouais, effectivement. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller au cinéma ?
Non, j'ai pu y aller quand même un peu, mais pas autant que j'aurais aimé.
Parce que j'ai pas vraiment d'introduction là, ou de date, ou de spécifique. Donc je pense qu'on peut commencer les chroniques, on peut enchaîner.
Mmh. À part le festival Récidive des Carmes qui porte sur l'année 36, ah oui, qui commence fin mars, pour 8 jours.
Effectivement, je pense qu'on pourra en parler.
On a le temps, puisque c'est fin mars, et que nous sommes pas début février, mais dans le premier tiers de février.
On pourra en reparler,
voilà,
effectivement.
On a le temps d'en reparler, ouais.
Eh bien, on va commencer, du coup, les chroniques. Et est-ce que Vincent et Arnaud, vous avez envie de commencer?
Oui, voilà. on peut évacuer. Enfin, pas évacuer, non, on va prendre un petit peu de temps quand même. On va parler du retour à Silent Hill.
Oui.
Qui est une suite. Enfin, pas une suite vraiment. Si, c'est quand même.
Enfin, c'est l'adaptation du deuxième jeu.
Voilà.
Un des plus célèbres, en fait, de la saga.
Oui.
Le premier film, donc, de Christophe Gans, lui, était plutôt basé sur le premier jeu, mais avec des mélanges quand même sur les différents chapitres vidéoludiques. Donc là, on est sur le plus, enfin, on est franchement sur le 2, sachant que c'est un troisième film,
oui,
dans la saga, je veux dire, le deuxième étant parfaitement oubliable.
Oh, la preuve, je l'avais oublié complètement.
Voilà. C'était un film sorti pour la 3D qui était pas terrible, et enfin, on sentait vraiment que la volonté de faire de la 3D, de faire venir les gens en salle grâce à ce gimmick primait sur la qualité du scénario et de l'interprétation, enfin bref, tout. Donc là, pour pitcher un petit peu le deux, enfin le pas le ce film là, donc qui est donc réalisé aussi par Christophe Gans. L'histoire, en gros, c'est j'ai pas les noms des personnages, je suis désolé. Mais enfin bref, notre personnage principal, notre protagoniste, peintre, artiste peintre.
Marie.
Pardon ?
Elle s'appelle Marie.
Non, ça c'est sa compagne,
c'est
justement.
C'est Dulciné, voilà.
Oh là là, mince, je suis en train de...
Non, c'est pas grave.
Oh là là.
Non, c'est pas grave, tu spoil le pas. Mais justement, Marie a une importance cruciale dans ce film, à savoir qu'ils se sont rencontrés aux abords de Silent Hill, qui à l'époque était une jolie...
Bourgade,
près
d'un lac.
Et... Donc lui s'est séparé d'elle parce que il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient pas trop dans leur couple, et elle est soi-disant décédée, mais il reçoit une mystérieuse lettre lui demandant de revenir à Silent Hill, etc., etc. Une fois arrivé sur place, et ben c'est plus la jolie bourgade, mais l'antichambre de l'enfer,
à peu de choses près.
Dans lequel il va essayer de la retrouver. Voilà, bon, ça c'est en gros l'idée du film et du jeu en question. Ouais.
Jeu vidéo, si j'ai pas compris, c'est bien ça, c'est qu'on parle bien d'une licence Konami en fait, et qui est sortie dans les années 90, je pense.
Oui, 90,
sur différentes 2000, consoles. Enfin. Et voilà, avant tout, c'est un jeu vidéo à succès, mais moins connu que Resident Evil, qui a été aussi beaucoup adapté en salle de cinéma et en film.
Un peu trop
probablement, ouais, exactement.
Alors, comme la première adaptation de Christophe Gans avait été plutôt une bonne surprise, on aurait espéré que pour celui-ci, ce soit aussi le cas. Malheureusement, d'ailleurs, quasiment même avant sa sortie, il s'est fait démolir de tous les côtés par les gens qui avaient eu la primeur d'une avant-première ou ce genre de choses. Le fait est que c'est effectivement pas une réussite.
Ouais.
Malheureusement.
Oui.
En fait, ce qui est un peu idiot, c'est que le film en tant que tel est pas un navet,
qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est le rythme.
C'est le rythme, la narration qui est pas qui manque de tension. Ouais. Alors que bon, on est quand même sur de l'horreur a priori,
oui.
Horreur psychologique,
et
etc.
C'est un peu ce qu'on recherche.
La tension, c'est un peu ce qu'on recherche. Et là, pour le coup, c'est raté. Alors pour avoir joué au fameux Silent Hill 2, j'y retrouve effectivement un certain nombre de choses qui font partie des moments forts du jeu, mais oui, ça tombe relativement à plat. J'ai pas envie de blâmer les acteurs, mais déjà c'est pas terrible en termes d'incarnation.
C'est très mal joué, on peut le dire. Parce que le mec, il joue très mal en fait, c'est vraiment, et la fille, c'est un peu mieux, mais enfin, ils sont pas extraordinairement crédibles en fait. C'est un des problèmes.
J'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on leur a fourni comme matériel qui y aide pas quoi. Alors il y a quand même visuellement des choses qui s'en sortent. Enfin, on retrouve quand même, on est dans cet univers là. Mais malheureusement, ouais, c'est pas une réussite. Donc.
Et c'est pas juste le fait que vous soyez. Enfin, je sais pas si toi aussi, Vincent, tu as joué.
Alors, j'ai regardé surtout Arnaud jouer. Moi, je suis plutôt un passif en jeu vidéo. J'aime bien regarder les autres jouer et surtout peiner à jouer. C'est pas facile ces jeux. Ils sont très difficiles. Ils sont très très angoissants effectivement parce qu'il y a des contraintes. Il y a un temps imparti. Il faut trouver une énigme dans un peu de temps avant de se faire manger ou détruire. Et du coup, le film reprend évidemment l'univers visuel est bien retraduit. Surtout que c'était une très réussie dans le premier film. Avec des moments très angoissants, avec témoins de 16 ans, c'était un film qui était très, très dur, très violent, et très cauchemardesque. Et là, il y a les ingrédients les mêmes, mais édulcorés. C'est en fait, c'est triste pour Christophe Gans, parce que Christophe Gans, il faut quand même rappeler, c'est pas du tout un anonyme. C'est à la fois un très grand cinéphile, hein. Il parle beaucoup de cinéma, il en parle très bien d'ailleurs, il est même mieux souvent comme un chroniqueur expert sur des sorties DVD ou Blu-ray collector. Et il est très très bon, je pense, pour parler des films de l'histoire du cinéma. Plutôt fantastique horreur, mais quand il réalise, c'est parfois réussi, c'était le cas du premier Silent Hill, mais alors là, oui, c'est fourvoyé, en tout cas, alors c'est pas la première fois qu'il fait des mauvais films, on peut le dire, il a fait déjà d'autres films peu réussis, mais là, malheureusement, voilà, c'est un petit peu c'était sans surprise, et c'était annoncé, effectivement, comme le dit Arnaud, on en avait beaucoup déjà entendu parler que c'était pas top, et en salle, ça s'est confirmé, on lui a donné sa chance, on y est allé le voir quand même, mais voilà, c'est pas une expérience mémorable, et puis surtout quand on compare au premier, c'est vrai que on se dit, là c'est dommage, parce qu'il a vraiment adouci tout, il a assofté tout, et puis le scénario est quand même bien moins construit, voilà, avec moins de force en tout cas, c'est clair.
Dommage. Et
donc, c'est pas une réussite.
Vous pensez qu'il y en aura un suivant?
Je pense pas. Non.
Non.
Non. J'espère pas en tout cas.
Enfin, j'en sais rien. J'ai pas vu ou lu de choses à ce sujet-là.
Ils vont pas rentrer dans leur frère hein, déjà.
J'y crois pas trop. Alors, est-ce qu'après, ce sera plutôt d'ici quelques années un reboot? Enfin bon,
Je crois pas.
Tout est possible.
Tout
aussi,
est possible. Hein, ils savent faire.
Mais là, en tout cas, on n'y pense pas.
C'est pas une réussite celui-ci en tout cas. Voilà.
Eh ben, merci, donc Silent Hill de Christophe Gans. Mais faites votre propre avis, allez le voir si vous aimez l'épouvante, mais pas trop de tension.
Non. Voilà.
Il y a Claude, toi tu as vu pas mal de films.
Oui.
Et peut-être que tu peux nous parler d'un film qu'on n'a pas vu, mais si tu as envie, parce qu'il me semble que tu as vu La Grazia.
Oui.
De Paolo Sorrentino.
Oui.
T'en as pensé quoi?
Ben, j'ai pensé, d'abord je prends Paolo Sorrentino pour un très grand réalisateur. Déjà pour commencer, je me souviens d'Il Divo, c'est un grand réalisateur. Et puis, au fil des temps, notre ami Sorrentino, je me demande si, quand il fait un film, il travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'il est co-scénariste sur ce film, mais le scénario est quand même pas très épais. Ce qui fait qu'il se rattrape à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire filmer, faire des très beaux plans, une mise en scène somptueuse, ça il sait faire. Mais quand il n'y a rien derrière, qu'est-ce que ça donne ? Et on est un peu, déjà avec son avant-dernier film, c'était ça, je me souviens plus du titre, mais c'était Pente, je sais plus comment, c'était bon, pas terrible. Et là, c'est un peu la même chose. Il se rattrape à ce qu'il sait faire, ce qui fait que ça maintient le film à peu près à niveau, mais on a connu beaucoup mieux. Alors l'histoire,
ah, c'était Partenope. Hein.
Partenope, oui, c'est ça. Oh. Ouais, alors là, Partenope, ça y est, le film revient parce que. Ça y est, tu vois, tu me dis Partenope, je vois la jeune fille. Je veux...
Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est un type qui... Bon, enfin, vous savez, avec Xavier, surtout moi, on est des défenseurs des images, du poids des images, quoi. Et je me souviens des plans de Partenope. Je me souviens de cette jeune fille qui est étudiante. Enfin, le film revient uniquement... de par les plans. Mais c'est pas tout d'aligner des beaux plans les uns derrière les autres. Il faut quand même qu'il y ait une histoire. Parce que sinon, ça sombre. Et là, il sombre pas, là, mais il surnage, j'allais dire. Donc, c'est l'histoire fictive d'un président de la République italienne. Alors, une histoire complètement fictive. Qui est à la fin de son mandat. Intéressant, ça, d'ailleurs. Fin de mandat. Où il doit prendre un certain nombre de décisions, notamment sur l'euthanasie. Et ce qui n'est pas. Et accorder
qui
la.
Pas, qui n'est pas légal en Italie d'ailleurs.
Non, oui, oui. Mm. Et oui, bon, on est en fiction là.
Oui, oui, mais.
On est au cinéma.
En Europe, c'est. Oui. Non, mais c'est juste pour dire que c'est un sujet peut-être qui intéresse beaucoup Sorrentino
oui.
Et que cette question de l'euthanasie.
Oui. Et en France aussi, c'est pas légal. Hein.
Mais, non, mais tout à fait. Mais en Espagne, ça l'est. Et justement, oui. Almodovar avait fait son dernier film sur ce sujet et je trouvais ça intéressant du coup.
Fin... Oui, et ne me dites pas que c'est la religion qui est un frein. Puisque nous sommes en Espagne.
Tout à fait.
Bon. C'est... Donc, il a deux décisions importantes à prendre. C'est, d'une part, signer ou pas ce texte sur l'euthanasie. Et puis, il doit accorder ou non la grâce à deux prisonniers. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir son raisonnement. Et son raisonnement est très, je veux dire, à la fois activé et pelué par... sa femme qu'il aimait beaucoup et qui est décédée, mais elle l'a trompé. Et il cherche avec qui il l'a trompé. À la limite, c'est pas très important ça dans le film. Il a quand même des... Alors c'est... Comme c'est un professeur de droit émérite, c'est un professeur de droit, je crois que c'est un pénaliste en plus. Donc, il est très attaché au droit et à son écriture et à son histoire. Donc, il est face à ses décisions, et on voit toutes ces turpitudes pour prendre ou pas prendre. On voit, en fait... Et comme c'est un type extrêmement intelligent, il se pose plein de questions, et notamment la question qui est centrale sur ce film-là, c'est la vérité. Où est la vérité ? Et quand il va gracier ou pas, je vous irai voir le film, donc je ne dis pas s'il est gracié ou pas, mais c'est voir son système de raisonnement sur la grâce. C'est assez surprenant, qui est très loin, et pareil, à la fin, on lui dit qui a trompé ça, avec qui sa femme l'a trompé, et c'est une vraie surprise. Donc, je ne dirai pas qui est...
Et
qui
le est, suspense.
Le suspense, vous irez voir le voir. Donc, c'est un film... Bon, on passe 2 heures, on aurait passé que 2 heures, ça serait bien, 2 heures et demie, c'est beaucoup, mais qui surnage uniquement parce que il y a un savoir-faire, parce que il a une écriture cinématographique, il sait faire des plans, il sait retenir le regard des gens, ça tient par ça, quoi. C'est, alors, j'ai beaucoup défendu le Jim Jarmusch, qui était précédemment, qui fait, alors, dans une autre manière, plus intimiste, mais qui se sert beaucoup des plans et des cales et de l'image, de l'écriture photographique pour décrire. Mais lui, il est plus fin. Tandis que là, Sorrentino, il y a pas grand chose derrière. Moi, je pense que c'est le scénario qui pêche. Pour moi, j'ai pas lu de critique à ce sujet sur Sorrentino, donc je préfère voir, comme je sais plus quel grand écrivain britannique ou américain qui disait, on lui disait, tenez, vous, cher ami, vous offrez un critique de ce livre. Il disait, je vais surtout pas le lire, ça va m'influencer. Donc, je n'ai lu aucune critique sur ce film. Mais on passe quand même, 2 heures, c'est supérieur à, comment ça s'appelle, à Penelope, comment ça s'appelle?
Parthenope.
Où là vraiment, mais comme quoi la puissance de l'image est là. Moi, je me souviens des plans, cette jeune fille quand elle est dans la piscine, quand elle est dans la mer. C'est quand même un type qui a un savoir-faire certain, quoi.
Oui, qui s'est filmé.
Ah oui, c'est filmé. Je sais pas s'il a gardé le même chef-op. À mon avis, oui, mais c'est un type qui a un savoir. Et bon, il se raccroche un peu aux branches sur ce film. Mais j'ai quand même passé. Moi, j'ai le plaisir des images, quoi. C'est déjà beaucoup.
Je suis d'accord. On peut faire une petite pause musicale avant de reprendre nos chroniques. Vous savez bien qu'il y a les Césars qui approchent et qui sont prévus à la fin du mois, là, le 26 février. Et j'ai regardé un peu là, les nommés pour la meilleure musique. Enfin, on en avait parlé déjà la dernière fois, mais juste du coup, je vous propose d'écouter, parce que j'aime beaucoup cette BO du film d'animation Arco, réalisé par Hugo Bienvenue. Et la musique originale a été composée par le français Arnaud Toulon. Et donc, il est nommé au César 2026. Et on va écouter le morceau qui s'intitule tout simplement Arco. Et on se retrouve juste après, toujours sur Radio Campus Orléans.
Thank you.
bien, on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film d'animation Arco. Et on continue avec nos chroniques de films qui sont encore actuellement à l'affiche, enfin je crois, en tout cas qu'on vient de voir récemment. Et je vous propose de parler d'un film qu'on a vu, Claude, que tu as vu aussi. Et il s'agit du film brésilien, L'Agent Secret.
Oui.
Tu l'as vu ?
Oui.
Ok. Eh bien, L'Agent Secret, tu veux que...
Non, vas-y, commence, Céline. Je viens de parler, donc commence.
Ok. Eh bien, merci. Donc, L'Agent Secret, qui est donc le cinquième long métrage du réalisateur Kleber Mendonça Filho. Et donc, c'est pas. Voilà, il commence à être. Son travail commence vraiment à être connu. Alors, ce que je voudrais dire c'est sur ce film, c'est qu'en fait, je ne comprends pas l'engouement. Parce qu'au Festival de Cannes, au dernier festival, il a reçu le prix de la mise en scène. Il y a eu le prix d'interprétation remis à l'acteur brésilien Wagner Moura. Et ben en fait, alors déjà je m'attendais à un film d'espionnage, L'Agent Secret. Parce que j'ai rien lu, enfin je regarde rien, je ne lis rien avant d'aller voir un film. Et du coup moi je me fie au titre.
Je te coupe juste deux minutes, il y a un film qui va sortir, que j'ai vu Angers, qui va sortir au mois de mars, qui s'appelle La Danse des Renards. T'as rien à voir avec les renards, je
tout de suite. Ah bah tu fais bien de me le dire du coup. Bah là, L'Agent Secret, quand je me suis dit bon bah voilà, chouette, je vais voir un film d'espionnage et bah pas du tout. Bon, c'est quand même un thriller, mais pourtant en fait, parce que je veux. Enfin, je m'attendais donc à un film d'espionnage, mais bon, ce que veut critiquer le film, enfin ce qui est quand même intéressant quand même, c'est que Kleber Mendonça Filho, il rappelle la réalité en fait de l'extrême droite avec la corruption, les meurtres, tout est juste. Enfin, c'est un film qui est quand même essentiel sur le sujet qu'il veut aborder. Et c'est encore un film en fait qui montre les dégâts d'une dictature. Et en fait, moi, je trouve que c'est pénible qu'avec tous ces films, on voit encore aujourd'hui le fascisme se développer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dénonce, parce que dans son film, donc L'Agent Secret, il dénonce l'oubli en fait. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, où à la fin. Et on le voit au Brésil, l'oubli a fait que Bolsonaro est revenu, je veux dire, il y a eu l'extrême droite de retour au pouvoir. Alors que là, le film Agent Secret se passe dans les années 70, c'est la dictature militaire donc au Brésil. Et donc, après avoir fait le deuil cette histoire d'agent secret. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a une très belle photographie. Les décors, les tenues sont impeccables et nous plongent vraiment dans les années 70. Mais en fait, je ne m'attache pas du tout au personnage principal, qui est interprété donc par Wagner Moura. Mais pas du tout. Il pourrait mourir là dans l'heure. Et en fait, les trois quarts du film, j'ai beaucoup de difficultés à cerner ce personnage, parce que du coup, je m'attendais à ce que ce soit un agent secret. Et en fait, à plusieurs moments du film, je sors complètement parce qu'il y a une double temporalité qui me perturbe. Il y a des passages fantastiques. Enfin, ça peut être intéressant, mais en fait, moi, ça me sort complètement du film. Il y a une légende urbaine sur la jambe poilue. c'est pas drôle. ça me parle pas du tout, parce qu'en plus c'est une légende qui apparemment est connue au Brésil. Bon, moi j'ai pas cette référence, et je pense savoir que c'est aussi intéressant quand on connaît la légende et ce qu'il en montre. Enfin, c'est toute la violence de cette société, et en fait quand on arrive à avoir les références, je pense qu'on arrive à prendre du plaisir. Mais et puis je trouve intéressant que le réalisateur cherche à dénoncer toutes les violences envers les minorités et même les personnes qui ne semblent pas dérangées. Enfin, ce personnage, ce chercheur Wagner Moura, le comédien, il a pas fait, il fait pas de politique en fait, il est pas, c'est pas un militant, c'est, et pourtant, bah pourtant il y a des tueurs à gages qui vont tenter de l'éliminer, mais parce qu'il y a juste un bourgeois à la pété de thunes qui demande à l'éliminer parce que c'est une personne qui correspond pas à ces normes de bourgeois conservateur, et du coup c'est ça l'extrême droite en fait, c'est ça, et donc je suis intéressée par le sujet, par le fond, mais la forme, je suis un petit peu mitigée. Mais Claude, t'as peut-être vu autre chose et t'as peut-être mieux apprécié.
J'ai vu la même chose que toi, mais je l'ai interprété différemment. Par contre, tu vas me préciser, parce que je n'ai pas su si c'était à la fin de la dictature du Brésil, au début de la dictature ou pendant ?
Ah, c'était pendant.
C'est pendant ? Bon. Donc si c'est pendant... Je pensais que c'était plutôt la fin de la dictature, et je te dirai pourquoi je pense que c'est la fin de la dictature.
Je vais te redonner les dates pour être sûr de ne pas te dire de bêtises. Pour moi, c'est...
Pendant que nous allons vous informer sur les dates, la dictature du Brésil, ça doit être les années...
C'est dans les années 70.
10, oui. Mais le film, qu'est-ce qui reprend comme...
Le film se passe en 77.
Oui.
Et la dictature, elle a eu lieu de 1964 à 1985.
Oui, au milieu.
Et ça se passe en 77. On est sur la fin de la dictature. Oui. 77, bon. Alors, moi, je dis que là encore, c'est un film qui tient de par la mise en scène. Parce que c'est un film qui est fait plein de feedback, qui est plein d'ellipses. Et on voit, effectivement, ce chercheur... qui n'est poursuivi que par un professeur de fac, titulaire d'une chaire, et un type très important qui veut pas le voir, et surtout grimper dans l'université, et qui va faire tout. Et quand on est dans un pays d'extrême droite, avec une dictature, eh ben on peut éliminer son voisin avec des fake news en disant qu'il a tué son chien alors qu'il n'a pas tué son chien. On peut tout faire dans une dictature. C'est ça qui est grave. Et je vous parlerai d'un autre film après.
Et c'est violent.
Oui, oui. Et c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce film tient de par la mise en scène parce que on part du travail de deux étudiantes qui sont chercheuses pour connaître la vie de ce garçon, quelle a été sa vie, et ça se termine avec la rencontre avec son fils. Et à un moment, on voit comment, quand il disparaît, ce que devient le fils. Donc, effectivement, il y a plein de feedback, il y a plein d'ellipses, et c'est ça qui est, alors c'est un film intelligent, très adroit dans son montage. T'en conviens que c'est très adroit dans le montage.
Ah oui, mais complètement paumé, mais voilà,
oui, mais c'est un film qui est très adroit dans le montage. Parce que s'il mettait ça d'une façon très linéaire, derrière, les uns derrière les autres, je pense qu'on serait quand même...
Ah, effectivement, ça serait pas intéressant non plus.
Ça serait pas intéressant.
Il part tellement dans tous les sens. Enfin, et le côté fantastique aussi, je trouve que ça arrive comme...
Parce qu'il fait appel à des légendes du Brésil.
Oui, c'est peut-être...
Et qui remontent. Et les dictatures sont tout à fait une période faste pour les légendes, bien évidemment. Et ce qui est, je veux dire, intéressant dans ce film, c'est le premier quart d'heure. Alors là, on voit le premier quart d'heure à quoi, dans une dictature, on s'intéresse. On s'intéresse juste uniquement à ce qu'on vous a demandé de faire, poursuivre tel type, espionner tel type. S'il y a une personne qui a été tuée dans une station-service, qui est pas important dans la vie, on peut le laisser pendant 3 jours sous les cartons, c'est pas un problème, la police s'intéresse à autre chose. Et c'est quand même décrire une dictature autre que par... On voit les effets de la dictature, autre que par les mécanismes. Et c'est quand même bien, dans un film, de pas toujours voir les mécanismes, mais de voir les effets. Et là, on voit les effets de cette dictature. Et moi, ça m'a extrêmement intéressé. Mais c'est le montage qui est... la chronologie du montage fait à travers ces deux chercheuses qui... Moi, je trouve que c'est un film très adroit. Alors, tu pourras dire que, effectivement, là encore, c'est le savoir-faire du réalisateur qui fait que ça tient. Oui, mais...
Chercheuses arrivent hyper tard, hein. En fait.
Ah bah oui, on découvre. Ah bah
elles arrivent très très tard, et en fait, il y a même pas de fondu. En fait, c'est un cut et hop, on est aujourd'hui. Et oula, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un bond dans le temps.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce que pense son fils. Ça, c'est intéressant. Je veux pas le dire. Comment?
Oui, c'est à la fin.
C'est à la fin. Je veux dire, Moi, je trouve que c'est montrer les effets d'une dictature d'une façon tout à fait différente que par un manichéisme qu'on a vu beaucoup lorsqu'on parle de dictature.
Effectivement, et c'est une sombre réalité, en fait.
Oui, oui.
C'est terrible, c'est terrifiant, et c'est ce qui nous arrive.
Oui,
c'est
oui.
ce qui est arrivé au Brésil, et c'est ce qui se développe partout.
Et je vous parlerai d'un autre film brésilien, qui s'appelle Teresa, qui vient de sortir, et je vous demanderai d'aller le voir, si je peux en dire deux mots.
Bah, allez.
Oui. C'est un conseil Teresa, dictatorial.
Moi, je peux vous dire, alors, tous ceux qui ont plus de 75 ans, vous allez voir ce film. Hein. Moi, je l'ai vu.
Alors, nous, on ne peut pas.
Si, tu peux, parce que tu auras moins peur. C'est quand même l'histoire d'une femme, d'une femme qui a 77 ans, et il y a un gouvernement brésilien qui a pris la décision, tous ces gens-là, il faut les parquer. Et on voit, alors elle reçoit la médaille du travail, parce qu'elle est toujours bien tenue, et on voit quand même des camions qui passent avec des cages, comme pour ramasser les chiens errants, où on fout les vieux dedans.
Et ben voilà.
Moi, je vous demande d'aller voir ce film. Parce que c'est un acte de cette femme va résister. Et je vous dis pas comment elle va résister, mais c'est faut aller voir ce. Alors c'est en plus la résistance, c'est peut-être le moins drôle, mais cette résistance fait quand même où on voit comment là encore un pays qui est dans la dictature se déliquifie totalement sur les classes populaires. Si on résiste pas, et elle prend des moyens par des biais extraordinaires pour passer à travers les gouttes, parce que de plus. Elle ne peut plus jouir de son argent parce que sa fille n'a pas trouvé mieux que de piquer son appartement de la foutre sous curatelle. Et son rêve, c'était de s'envoler du Brésil pour faire un voyage. Elle peut pas. Elle peut plus rien faire. Moi, je vous demande d'aller voir ce film. C'est vraiment un film. C'est un acte de résistance. Et vous allez voir comment on prend soin des vieux au Brésil dans une dictature en les mettant dans des cages.
Ah, mais ça m'étonne pas.
Et ça, c'est pourquoi j'en ai parlé. Parce que c'est la suite du film de l'agent secret.
Ok.
Et je sais pas il vient de sortir, je crois,
oui.
hier.
Oui.
Mais alors, puis il a plein de cheveux blonds quand même, pour ceux qui en ont d'ailleurs, au Carme. Donc, je demande d'aller voir ce film. Il vous fera pas peur. Vous verrez, c'est un acte de résistance. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais j'en reparlerai plus tard.
Non, mais merci, Claude. Effectivement, on ira voir Teresa, tu as raison. Et bien, ce film suivant. Là, on va peut-être encore t'entendre parler, Claude, mais je vais laisser la parole d'abord à Vincent et Arnaud, parce que vous avez donc vu le gâteau du président de Hassan Fadi.
On va encore parler de résistance et de dictature.
Bah voilà.
Vous reprendrez bien du gâteau. Hein.
Et donc, ouais. Tous les trois, vous l'avez vu.
On l'a tous vu, là. Et sous tes conseils, sous ton injonction, aller le voir il y a deux semaines ou trois semaines. Mais on l'a vu, ouais, hier soir. Ok, mais du coup, on a passé plutôt un bon moment, en fait, avec cette caméra d'or de Cannes l'année dernière, puisque c'était le premier film. On avait un petit débat sur est-ce que c'est vraiment des premiers films ou pas, parce qu'apparemment, c'est peut-être pas forcément le premier film du gars.
Oui. Alors, à Angers, il était hors compétition.
Ouais.
C'était le film de clôture. Mm. Mais ils ont quand même passé un film pour un premier film. Alors et d'ailleurs, ce film sort au Carme qui s'appelle... Les Dimanches.
Les Dimanches, là, oui.
C'est son troisième film.
C'est son troisième film.
Oui, mais oui, c'était pas son premier film.
Non, c'est pas, mais ils l'ont sélectionné.
Ouais.
Oui.
Et elle a eu un prix. Moi, je.
C'est un peu étrange pour un festival.
Oui, oui, il se passe des choses étranges. Pour écouter l'interview de Claude-Éric Poirot,
okay,
il se passe des choses étranges. Vincent.
Donc voilà, donc c'est le film de Hassan Hadi qui a eu le prix de la caméra d'or à Cannes dernièrement, avec une histoire assez presque un conte en fait dans sa forme, puisque c'est une petite fille accompagnée d'un coq tout le long du film, et elle a été tirée au sort comme ça se fait à l'école pour réaliser un gâteau. Et attention, il faut qu'il y ait de la crème pour l'anniversaire du Raïs, l'anniversaire de Saddam Hussein. Tous les ans, c'est la même chanson. Et donc, voilà sa mission. Alors, elle, comme le disait Claude, malheureusement, c'est une gageure pour elle, parce que d'abord, ils vivent sur rien. Ce sont des paysans, ils sont pas dans la ville. Et ça, c'est une partie qu'on va évoquer avec Arnaud, qui nous a charmés. Et donc, c'est un grand stress, même si elle le montre pas. Quand elle est tirée au sort dans la classe, hop, tu vas faire le gâteau. Bon, voilà. Et effectivement, effectivement, bah, c'est un parcours du combattant, de la petite combattante qu'elle est, pour avoir des œufs, de la farine, de la levure, des denrées qui chez nous se trouvent en un claquement de doigts. Mais sous le régime du Seine en 90 à peu près, 1990, eh ben c'est très compliqué, très très compliqué pour trouver ça. Quelle sera la punition si elle fait pas le gâteau? Bon, probablement plutôt une espèce de d'humiliation, parce qu'ils adorent ça, l'humiliation, etc. Elle sera un peu montrée du doigt, sa famille aussi. Alors, elle a pas ses parents, elle a juste sa grand-mère.
On les menace quand même de les battre.
De les battre, hein, voilà. C'est, la bastonnade est quand même évoquée. Ah, non, c'est pas non plus, voilà. Il y a quand même la sanction corporelle. Et du coup, elle vit avec sa grand-mère. On comprend que son père est probablement mort à la guerre, enfin, conflit contre les Américains, contre le grand Satan, entre guillemets. Et du coup, elle vit avec une grand-mère qui est extraordinaire, qui est vraiment un personnage là aussi de conte, pratiquement. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans le film, je trouve ce qui est très très beau, c'est, d'ailleurs, c'est le titre en arabe du film. En fait, ça s'appelle Le Royaume des Roseaux. Pas du tout le gâteau du président. Hein. Et c'est, ce qui est génial, c'est que tu parlais du terme de lacustre. J'ai cherché le mot tout le long du film et Arnaud l'a trouvé. Ce sont des paysans qui vivent au bord du fleuve. Et donc,
sur le fleuve,
avec des bateaux, avec des tentes posées dessus. Et alors, ça, on découvre ça avec une très belle lumière au début du film. Et ça va être un fil conducteur tout le long, pratiquement jusqu'à ce qu'elle aille à la ville pour trouver les denrées là. Avec un petit copain, un petit gamin, etc. Ils font le chemin ensemble, puis d'autres personnages. Il y a vraiment des rencontres. Et alors, heureusement qu'il y a de l'humour, parce que effectivement, en fait, c'est classique. Alors, c'est pour ça que le gars et le caméraman, c'est un premier film, parce qu'il est construit comme un vrai premier film, c'est-à-dire on utilise la petite histoire pour dépeindre la grande derrière, en l'occurrence le régime dictatorial de Hussein, et donc la petite histoire s'incruste comme ça avec des arrière-plans, des angles, des choses cachées un petit peu qu'il faut découvrir, où on voit l'horrible la réalité de la chose. Mais il y a de l'humour en compensation, et c'est ça qui est assez fort de café, c'est qu'on rigole beaucoup, il y a beaucoup d'humour, en étant dramatique quand même. La fin n'est pas drôle, pas totalement drôle en tout cas. Et donc c'est un équilibre, un très beau travail d'équilibre, avec une très belle photographie, et ça, Claude, tu l'évoquais, qu'il y a des écoles de cinéma en Irak qui sont costauds,
et on
le voit bien, il y a une citation,
Le
film cite beaucoup. Il y a des citations cinématographiques, hein, ça va référencer pas mal de cinéastes qu'on peut percevoir un peu dans le travail du montage, le travail de la lumière, le travail du cadre. C'est sobre en cadre, hein. Il n'y a pas beaucoup d'exagération, c'est très très des panneaux, très lent. Mais voilà.
Moi, la France monte une cinémathèque à Bagdad en ce moment.
Ah oui, non mais.
Arnaud.
Oui, alors par contre, il y a donc des écoles de cinéma en Irak.
Ouais.
Le truc, c'est que ça fait quand même des années, il me semble, qu'on n'a pas vu de film qui se passait en Irak.
C'est le premier, c'est vrai, c'est rare.
Là, pour le coup, c'est un peu une nouveauté. Mm. Alors effectivement, on découvre un certain nombre de choses. Enfin, on découvre, la fameuse campagne lacustre.
Mm. On n'imaginait pas ça, plutôt.
C'est assez extraordinaire, donc les maisons, enfin les tentes, comme tu parlais de tentes, mais enfin. C'est fait avec les joncs, etc. Hein,
on est sur
quelque chose vraiment fait avec ce qu'on a sous la main, quoi. Ouais. Mais très bien fait, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Moi, j'ai eu un peu une impression de déjà-vu. Par rapport au récit,
C'est vrai que c'est pas nouveau, hein, sur la forme. Ouais.
J'allais dire initiatique, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais effectivement, sur ce parcours, bon, c'est filmé à hauteur d'enfant, hein, pour la plupart du temps, donc on est vraiment dans ce cheminement qui concerne des petits êtres. Face aux adultes. Souvent moustachu.
Ah oui, clairement,
à l'image du dictateur.
Quand ton professeur de classe d'école, c'est un mec en militaire, en vareuse, avec la même moustache que le patron qui est en cadre juste au-dessus, puisqu'il y a les portraits partout dans la ville, hein, partout il y a les portraits.
C'était la mode. Hein.
Ah oui,
peu importe que le portrait soit mal réalisé, on s'en fout.
En dessin,
il est partout. Donc voilà, non, bah, c'était plutôt une bonne surprise. Enfin,
on
a passé un bon moment et intéressant, voilà.
Moi, j'ajouterais juste deux choses. C'est qu'en fait, ce que dépeint le réalisateur, pas pour la cité lacustre, mais pour le gâteau du président, il était en classe. Il a connu ça, fallait faire le gâteau du président. Et il évite quand même un piège. Mmh. qu'est le misérabilisme.
Misérabilisme, ouais,
oui,
tout à fait.
Il évite ça parce que j'ai vu les premiers roulins. Quand j'ai vu on va tomber dans un truc.
Non, en fait, ça reste.
Pas du tout.
Moi, je trouve que c'est plutôt un truc limite documentaire.
Oui.
L'approche, pas ethnographique, mais enfin, qui s'intéresse vraiment à la façon de vivre des gens, quoi.
Ce qu'a voulu faire le réalisateur, il l'a dit. Oui. Il a dit, moi, je voulais montrer comment, pendant les années de guerre, où on n'avait pas grand-chose, et puis il fallait faire le moindre peuple, il fallait qu'il participe à l'effort de guerre.
Des collectes partout. Hein.
Des collectes partout.
Rien, il faut donner.
On participe à l'effort de guerre, et on n'avait rien.
Ils
n'avait rien. Alors les pauvres, ils avaient encore moins, ce qui fait qu'il faut se débrouiller, il faut
le
voler, faut se débrouiller. C'est un film sur la débrouille, mais qui a été réel
C'est du vécu, on sent
bien. En même temps, il évite le misérabilisme, mais t'enlèves l'humour du film. Là, t'es en plein dedans. La scène du magasin avec la femme enceinte.
Ah oui, c'est dur.
Effectivement, il y a de l'humour,
la scène échappatoire du cinéma, potentiellement, elle pouvait finir mal aussi. Hein. horrible. Oui.
Voilà. Mais bon. C'est tout à fait en annexe. J'ai une relation qui a travaillé en Irak. Et qui, non seulement a travaillé en Irak, mais est resté longtemps, travaillé chez Thalès.
J'y pensais un peu, parce
qu'il y a été pendant la guerre.
Ouais,
mais il dit la France était très aimée en Irak. Il dit, c'est un peuple extrêmement cultivé.
Très cultivé, oui.
Très cultivé. Lui, il a été en Albanie, il a été en Australie. Il dit, l'Irak est un pays cultivé. Et c'est pas étonnant qu'ils produisent des cinéastes. Hein. Arnaud, tu disais, on voit pas beaucoup de films irakiens.
En tout cas,
Des films jordaniens. Les Jordaniens produisent des films. Tu les vois pas en France.
Après, il y a le circuit.
Il y a une multiproduction. C'est à la fois l'Amérique, l'Irak qui produit. Pas l'Irak, mais le Qatar aussi donne des fonds. Il y a vraiment ces montages. L'Europe aussi, la France, même, je crois, dans l'enveloppe.
Justement, si du coup la France est aussi, en tout cas, l'Europe est dans la prod, dans la coprod.
Absolument.
C'est plus simple, du coup, à ce que le film soit distribué en Europe.
C'est pour ça qu'on
le
voit. Ouais, bien sûr.
En fait, ce qu'on peut souligner, parce que je pense que tout le monde, quand on parle d'Irak, tout le monde a des images,
un peu de la,
soit de celles qui ont effectivement directement des informations qu'on a pu voir à la télé, etc., mais aussi de tous les films de guerre qui ont été faits
côté
côté américain sur les conflits en Irak, etc.
En fait.
Bon, là, justement, on voit autre chose.
Oui, on voit l'autre angle, en fait.
C'est
intéressant, ça.
C'est bien, effectivement. Oui. Oui, et que ça arrive enfin jusqu'à nous, oui.
Mm-hmm. Donc, ouais, tout bien.
On peut faire une petite pause musicale avant de terminer l'émission. Et donc, on continue avec la BO du film Arco. Et là, on va écouter donc le morceau Robot Chase. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et on se retrouve tout de suite après.
Et vous êtes donc toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un morceau de la bande originale de Arco, film d'animation, et qui est nommé donc au César de la meilleure musique, composée par Arnaud Toulon. On arrive sur les 10 dernières minutes de notre émission. Et oui.
Ben, je me demandais si l'émission précédente dont j'ai pas pu venir, si vous aviez, enfin, si Vincent avait évoqué Primates.
Non. J'avais dit que c'était tellement pourrave que
voilà. C'était une... je valide.
C'était bien pourri. C'était indigne d'en parler. C'était vraiment très mauvais. Comme j'ai pas vu de film mauvais depuis longtemps.
Et ben voilà, la chronique est faite. C'était Primates. Ouais. Eh bien, je voulais vous parler de Hamlet.
Oui, bah, il y a une très bonne... même si c'est pas top, il y a eu beaucoup d'échos sur ce film.
Ah oui, oui,
mais
oui.
Mais je pense que je suis pas sûr.
Beaucoup d'échos.
Mais trop probablement.
Et Claude aussi, tu l'as vu.
Qu'est-ce que ça vaut alors?
Eh bien, en tout cas, je vais te donner mon avis. Alors, moi, j'ai vidé tout mon corps de son eau. Alors, j'ai jamais autant pleuré devant un film. Ah.
C'est que ça marchait alors.
Un peu, oui, les émotions. D'accord. Oui, c'est. J'ai vraiment. Là, j'ai accroché. Je ne suis pas du tout sortie du film. Donc, Hamlet, film de Chloé Zhao, qui est donc c'est son cinquième long métrage, qui est une réalisatrice chinoise. Émigrée aux États-Unis. Enfin, d'abord en Angleterre et aux États-Unis. Bon, bref, je ne vais pas faire tout le détail. Elle est quand même la deuxième femme après Bigelow à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation avec son précédent film Nomadland. C'est une cinéaste qui travaille beaucoup les grands espaces, les paysages naturels et qui trouve beaucoup son inspiration dans des personnages marginaux. Alors il y a eu Les Éternels, alors beaucoup parlent des Éternels, donc son film sur l'univers Marvel, oui, qui a peut-être beaucoup de défauts. Moi j'en vois aussi des qualités sur les personnages sur l'inclusivité et sur sa volonté de justement montrer beaucoup d'espaces naturels qu'on voit pas toujours sur les Marvel qui sont souvent en studio et elles n'ont, enfin bon, l'idée n'est pas non plus de parler des Éternels, mais il y a tellement de critiques sur ce film. Mais ces autres films sont exceptionnels, comme Nomadland, voilà, mais The Rider aussi. Mais là, on est sur Hamlet, qui est donc l'adaptation d'un roman, celui de Maggie O'Farrell, et qui fait un lien entre le jeune fils de Shakespeare, Hamlet, et la pièce Hamlet. Alors, on va essayer de ne pas spoiler. Donc avant de voir le film, comme d'habitude, je ne vois rien, je ne lis rien. Et en fait, j'avoue avoir découvert qu'à la fin du film qu'on parlait de Shakespeare. Mais pour dire. Alors que c'est Hamlet. Enfin, Hamlet. Enfin, bon, j'aurais quand même peut-être pu faire le lien, mais non, voilà. En fait, c'est tellement secondaire dans le film que ça rend ça rend plutôt l'histoire universelle sur la parentalité, sur le couple, sur le deuil, et le film est surtout porté en fait par le personnage d'Agnès Anne, parce que le vrai nom de la femme de William Shakespeare, c'est Anne, qui est interprétée par Jessie Buckley, qui est juste incroyable et qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice, et qui je trouve qui est vraiment méritée. Et qui est un personnage qui a son côté marginal avec ses pratiques ésotériques et qui est athée en plus dans cette Angleterre du XVIe siècle, qui est vraiment qui est très particulière. Et en fait, Chloé Zhao nous propose une relation de couple dans ce film qui est bien plus égalitaire de ce qu'on peut voir habituellement dans ces films de cette époque. Entre le choix de l'être aimé, comment elle annonce sa grossesse, on sent la bienveillance, l'écoute, et il n'y a pas de violence malgré les souffrances, malgré
mince, il y a l'épidémie, c'est la rage hein, qui circule à ce moment-là. Enfin, il y a tellement de... c'est une période qui n'est pas facile. Et en fait, en voyant Hamnet, j'ai beaucoup pensé au film de Kelly Reichardt, First Co., qui propose aussi une image différente en fait, de ces films, de ces films à code, des films... d'époque et je trouve que c'est du coup des films qui nous montrent l'histoire mais d'un côté moins viriliste et moins patriarcal, elle casse les codes du cinéma et j'adore. Et puis la scène finale au théâtre qui rassemble, qui montre toute l'émotion, toute la symbiose populaire qui rend, je trouve, tout, enfin qui rend le sujet universel. Ouais, pour moi, il m'a bouleversé ce film.
Cool. Oui, alors c'est un film là encore avec une mise en scène très intelligente et par le montage où effectivement, comme toi, on découvre qu'on a affaire à Shakespeare. Complètement à la fin, dans la scène finale. Avant, on pensait que tout le film, qu'il était gantier comme son père à Londres et pas du tout homme de théâtre. Voilà. Donc ça, c'est intelligent. On peut faire beaucoup de choses sur Shakespeare parce qu'on sait très peu de choses sur lui. Donc on peut effectivement beaucoup improviser. Il faut quand même voir dans ce film, tu as parlé du deuil, mais c'est un film où la mort est constamment présente. Mais constamment présente. Mort à travers la maladie, mort à travers son fils, qui en plus, pourquoi il meurt ? Parce que tout simplement, c'est normalement sa sœur qui aurait dû mourir.
On ne spoil pas.
Bon, oui, on ne dit pas. Oui. Enfin, je sais pas. Je crois qu'on est sur la fin. Je pense qu'il y a plus beaucoup de séances, malheureusement. Donc, on est sur une réflexion très importante sur la mort. Essayez de le fameux Hamlet, où Do est tiré la fameuse phrase de Shakespeare, « To be or not to be », que je traduis en langage populaire, « Mettre les mains dans le cambouis ». C'est à peu près ça, quoi. Donc, non, mais bon. Donc, il y a un personnage qui est fascinant, c'est effectivement sa femme, Anne, ou Annette,
bon, Agnès,
qui est jouée par Jessie Buckley, qui est une Irlandaise, je crois. Mais alors, c'est Il y a, dans le cinéma, moi, il y a Gob est pas là, mais on en parlera avec Xavier la prochaine fois. On avait vu un petit film américain très intéressant parce qu'on découvre, c'est une fille qui était, je sais plus comment il s'appelait, j'ai pas mon ancien cahier, qui part fête de fin d'école, voyage avec le, elle s'en va et elle passe de communauté et on voit des États-Unis. Et cette fille était fascinante. Je veux dire, quand on la regardait, on ne la quittait pas des yeux tellement elle l'attirait. Or, je vais parler des femmes, là. Jessie Buckley, c'est complètement différent dans là. Elle est fascinante, mais je crois que si je l'avais en face d'elle, et c'est à la Laura qu'elle a dans ce film, je crois que je pourrais rien lui dire. Je pourrais pas. Elle a une présence, mais monumentale dans ce film. Elle tient le film, elle a une crédibilité, une présence, une authenticité. Oui. Je veux dire, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Donc, c'est un film qu'il faut aller voir. Si...
tu as versé toutes les larmes de ton corps, toi aussi, j'ai l'impression.
Oui, c'est un film qu'il faut aller voir. Oui, j'ai pleuré aussi, oui, parce que il y a quand même des grands moments d'émotion. Et le cinéma, c'est pas que, c'est aussi des émotions.
Surtout, oui. C'est le film sur la mort que j'aurais dû voir, parce que moi, je me suis fadé 3 heures de film allemand sur la mort, mais j'ai pas chialé, hein. Et puis, c'est un peu plus long, hein.
Ouais.
Faut les voir l'un après l'autre, je pense.
Mais là, c'est vrai. C'est vraiment cette réflexion sur la mort, sur le deuil,
ouais.
Et puis cette qualité...
La parentalité. Enfin...
Oui, tout à fait. Et là, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est tiré d'un roman qui s'appelle Ahmed, d'ailleurs. C'est une Américaine, non, je crois qu'elle fait le roman.
Je ne sais pas. Maggie O'Farrell, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais toujours est-il que là aussi, elle a beaucoup improvisé, parce que comme on ne sait rien sur...
Pas effectivement, mais on sait qu'il a eu quand même un fils. On sait qu'il a eu un fils qui est...
Oui.
Je ne veux pas spoiler.
Oui. Oui, il a eu trois enfants.
Trois enfants,
dont un garçon, ça oui. C'est évident. dont un garçon, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il oui, y en a, y a même un auteur britannique, je ne sais pas lequel, qui a dit que mais Shakespeare, ce n'est pas lui qui a écrit ses pièces, ah, c'était le mec.
Mais on sait que son garçon s'appelle Hamnet.
Oui, oui, c'est ça, ouais, oui. Oui. D'où est tirée la pièce, le fameux Hamlet.
Voilà, c'est pour ça qu'elle fait un lien, même si on ne sait pas s'il y a vraiment un lien, mais elle, dans son livre, effectivement, elle imagine qu'il y a un lien.
Oui, oui. Donc ce film est un film qui est plein d'émotions. C'est quand même très adroit de la part de Chloé Zhao de se tirer des émotions, très aidées, mais effectivement, par son actrice et son acteur. On a beaucoup parlé de l'acteur. Moi, je trouve qu'il est, oui, bien.
Mais
c'est
Paul Mescal,
oui. Oui, mais c'est quand même Jessie Buckley qui emporte
oui,
le film.
Mais il est pas mal, il est bien, justement. Il est bien, il est à sa place. On arrive à la fin de l'émission, il nous reste quelques secondes. Et Claude, tu veux juste...
Non, je reviens sur les voyages de Teresa, où la dame qui joue c'est une grande actrice de théâtre brésilienne et qui a eu un prix d'interprétation, je ne sais plus trop où, mais c'est une grande, grande, grande actrice.
Ok, ouais. Ok. On ira prochainement. Hein. On ira voir. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Voilà, c'était Alors, on se fait un film. On se retrouve exceptionnellement la semaine prochaine. Voilà, il y aura Gob avec nous, donc c'est chouette, et donc on parlera d'autres films. Si vous avez manqué les émissions, si vous voulez nous réécouter en boucle, on est en replay sur...